Vous écoutez France Culture.
Depuis les années 80, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch mène un travail d'enquête au cœur des traumatismes de l'histoire soviétique. Lors de longs tête-à-tête, elle écoute et consigne la parole longtemps bridée des témoins, avec le souci de mettre au jour les conséquences intimes des catastrophes de la grande histoire. On lui doit notamment les cercueils de zinc sur la guerre russo-afghane ou la supplication sur les victimes de Tchernobyl. Dans son dernier ouvrage, « La fin de l'homme rouge », sous-titré « Le temps du désenchantement », Svetlana Alexievitch s'attache à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'urgence est de consigner les traces que le socialisme a laissées dans l'âme et la vie des gens. Les personnes interrogées sont souvent des femmes, des veuves, des mères, des fiancées. Elles ont connu plus souvent le malheur que le bonheur. Pas une famille russe qui n'ait sa part de tragédie. Nous vous proposons d'écouter 5 de ces témoignages. 5 femmes, 5 destins ancrés dans l'époque soviétique.
Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Svetlana Alexievitch.
Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу. Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых.
Вопрос стоит более конкретно. Где я хочу жить? В великой стране или в нормальной?
La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait Jean-Pierre Thibaudat.
Время было важно. Перестройка.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio.
Казалось, что вот-вот куда-то взлетим. Свобода была разлита в воздухе.
Troisième émission.
Anna Maille, architecte, 59 ans.
La dernière chose dont je me souvienne, c'est un cri. Qui avait crié? Je ne sais pas. Moi? Ou alors, ma voisine, elle avait senti l'odeur du gaz sur le palier. C'est elle qui a appelé la milice. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Vous m'avez demandé de raconter mon enfance. Mon père a été arrêté en 1937. Il travaillait dans les chemins de fer. Maman courait partout, elle faisait des pieds et des mains pour démontrer qu'il n'était pas coupable, que c'était une erreur. Moi, elle m'avait oublié. Quand elle s'est souvenue de mon existence et qu'elle a voulu se débarrasser de moi, il était déjà trop tard. Elle a avalé toutes sortes de saletés. Elle a pris des bains brûlants. Et je suis né avant terme. Mais j'ai survécu. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis sorti bien des fois. Bien des fois. Et puis, ma mère aussi a été arrêtée, et moi avec. On ne pouvait pas me laisser toute seule dans l'appartement. J'avais 4 mois. Au camp, j'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 3 ans. À 3 ans, les enfants étaient enlevés à leur mère et installés dans des baraques séparées. Mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 4 ans. Non, plutôt 5. Ce sont des images. Le matin, à travers les barbelés, on voyait nos mamans se faire compter avant d'être emmenées au travail, hors de la zone. Là où nous n'avions pas le droit d'aller. Quand on me demandait « D'où es-tu, ma petite fille ?» Je répondais « De la zone. » Hors de la zone, c'était un autre monde, quelque chose d'incompréhensible et de terrifiant qui n'existait pas pour nous. Le désert, du sable, de la steppe pas sèche. Je croyais que ce désert s'étendait à l'infini. Jusqu'à l'horizon, et qu'il n'existait pas d'autre monde que le nôtre. Nous étions gardés par nos soldats et nous étions fiers d'eux. Ils avaient des étoiles sur leurs casquettes. J'avais un ami, Rubik Tsirinski. Il m'emmenait voir les mamans en me faisant passer par un trou dans les barbelés. On se faufilait dans la baraque. Elle était vide. Les mamans étaient au travail. On le savait. Mais on y allait quand même. Et je reniflais tout. Les lits en fer, le tonneau en fer pour l'eau potable, le gobelet au bout d'une chaîne. Tout avait l'odeur des mamans. Ça sentait la terre et les mamans. Je me souviens, un jour, maman a voulu me donner un bonbon. « Anya, tiens, j'ai un bonbon pour toi », disait-elle à travers les barbelés. Les gardiens l'ont repoussée. Elle est tombée. Et ils l'ont traînée sur le sol en la tirant par ses longs cheveux noirs. J'étais terrifiée. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un bonbon. Aucun de nous ne savait ce que c'était. Nous avons tous eu peur. Des peurs. Nous en avions beaucoup, des grandes et des petites. Nous avions peur de grandir. Nous avions peur d'avoir 5 ans. À 5 ans, on nous emmenait à l'orphelinat. Et nous comprenions que c'était très loin des mamans. Moi, je me souviens qu'on m'a mise dans l'orphelinat numéro 8 du hameau numéro 5. On nous a fait monter dans un camion et on nous a emmenés. Les mamans couraient derrière. Elles s'agrippaient aux ridelles, elles criaient, elles pleuraient. Je me souviens que les mamans pleuraient tout le temps. Et les enfants, rarement. On ne faisait jamais de caprices, ni de bêtises. On ne riait pas. C'est seulement à l'orphelinat que j'ai appris à pleurer. Là-bas, on nous battait beaucoup. On nous disait « Vous, on peut vous taper dessus et même vous tuer parce que vos mamans sont des ennemis. » Je ne me souviens pas du visage de celle qui n'arrêtait pas de me répéter ça. Je ne me souviens pas si elle prononçait vraiment le mot « tuer », mais c'était quelque chose comme ça. Des mots de ce genre, des mots terrifiants. Nous n'avions pas d'éducatrice ni d'institutrice. Nous ne connaissions pas ces mots. Nous avions des commandantes. En classe, on nous apprenait surtout à aimer le camarade Staline. Ma première lettre, c'est à lui que je l'ai écrite, au Kremlin. Voilà comment ça s'est passé. Dès que nous avons su écrire, on nous a distribué les feuilles blanches et on nous a dicté une lettre à notre guide bien-aimé. Nous l'aimions beaucoup. Nous étions sûrs qu'il allait nous répondre et nous envoyer des cadeaux. On contemplait son portrait. Nous nous disputions même pour savoir qui donnerait combien d'années de sa vie pour une seule journée de la vie du camarade Staline. Notre fête préférée, c'était le 1er mai. Ce jour-là, on nous distribuait des robes et des manteaux neufs, tous exactement pareils. Alors, on essayait de se les approprier, on faisait une petite marque. Ne serait-ce qu'un nœud ou un pli, pour montrer que c'était à nous, que c'était une partie de nous. On nous disait que notre famille, c'était la patrie et qu'elle pensait à nous. Devant tous les enfants, alignés dans la cour, on hissait un grand drapeau rouge et on battait le tambour. Une fois, un général est venu nous féliciter. C'était merveilleux. Pour nous, tous les hommes se divisaient en soldats et en officiers, et celui-là était un général, avec des bandes sur son pantalon. « Tu sais ce que c'est, un papa ?» m'avait demandé Valia Knorina. Je ne savais pas. Elle non plus. Vous croyez que ça intéresse quelqu'un aujourd'hui? Qui? Hein? Dites-moi qui. Ça fait longtemps que ça n'intéresse plus personne. Tout le monde s'en fiche. Notre pays n'existe plus et il n'existera plus jamais. Mais nous, on est toujours là, avec nos horribles souvenirs et nos yeux de bêtes traqués. Nous existons. Moi, je continue à rêver du camp. Aujourd'hui encore, je ne peux pas voir un berger allemand sans trembler. J'ai peur des gens en uniforme. Je n'en pouvais plus. J'ai allumé le gaz. J'ai ouvert les quatre brûleurs. J'ai fermé le vasisdas et j'ai tiré les rideaux. Je n'ai plus rien qui fasse que j'aie peur de mourir. Quand on a encore quelque chose qui vous retient, comme l'odeur d'un bébé, par exemple. Je n'ai même pas d'arbre sous ma fenêtre, juste des toits. J'ai posé un bouquet de fleurs sur la table. J'ai allumé la radio. Je me suis retrouvé par terre. J'étais allongé sur le sol. Et c'était encore au camp que je pensais. Je franchissais le portail et il se refermait derrière moi en grinçant. J'étais libre. On m'avait libéré. J'avançais en me répétant qu'il ne fallait pas regarder en arrière. Je mourais de peur que quelqu'un me court après et me fasse revenir. Qu'il faille retourner là-bas. Au bout de quelques pas, j'ai vu un boulot près de la route. Un boulot ordinaire. J'ai couru vers lui. Je l'ai serré dans mes bras et je me suis collé contre lui. À côté, il y avait un buisson. Lui aussi, je l'ai serré dans mes bras. Une voisine a senti l'odeur du gaz. La milice a défoncé la porte. J'ai repris conscience à l'hôpital et ma première pensée a été « Où suis-je ? Au camp ?» C'était comme si je n'avais jamais eu une autre vie. Comme si je n'avais jamais rien connu d'autre. Ce sont d'abord les bruits qui me sont revenus et ensuite j'ai senti la douleur. Tout me faisait mal. J'ai mis très longtemps à revenir. Oh, vous n'en avez pas assez? Dites-le-moi. Je peux me taire. Maman. Maman est venue me chercher quand j'étais en cinquième. Elle avait passé 12 ans dans un camp. On a vécu ensemble pendant 3 ans. Et on avait été séparés pendant 9 ans. Elle était envoyée en relégation et elle était autorisée à m'emmener. C'était un matin. Je marchais dans la cour quand quelqu'un m'a appelé. Anya, Agnieszka. Personne ne m'appelait comme ça. On ne nous appelait jamais par nos prénoms. J'ai vu une femme aux cheveux noirs et j'ai hurlé. Maman ! Que d'émotion, que de joie. Pendant quelques jours, j'en avais la tête qui tournait. Plus jamais je n'ai éprouvé un bonheur pareil. Mais très vite, il s'est avéré que nous ne nous comprenions pas du tout, maman et moi. Nous étions des étrangères l'une pour l'autre. J'avais hâte d'entrer au Komsomol pour lutter contre des ennemis invisibles qui voulaient détruire notre vie si merveilleuse. Maman me regardait en pleurant. Elle ne disait rien. Elle avait tout le temps peur. À Karanganda, on nous a délivré des papiers et on nous a envoyés en relégation dans la ville de Bielovo, au fin fond de la Sibérie. Nous avons mis un mois pour arriver là-bas. À Bielovo, nous avons habité dans un abri creusé sous terre. J'avais attrapé la tuberculose. Je ne tenais pas sur mes jambes tant j'étais faible. J'avais des quintes de toux terribles. En septembre, à la rentrée des classes, je ne pouvais pas marcher. J'ai été hospitalisé. Je me souviens qu'à l'hôpital, il y avait tout le temps quelqu'un qui mourait. Sonia, Vania, Slavik. Les morts ne me faisaient pas peur. Mais je n'avais pas envie de mourir. Et je m'en suis sorti. Par je ne sais quel miracle. Un jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une branche de merisier sur ma table de nuit. Je ne sais pas qui l'avait apportée, mais j'ai compris que j'allais vivre. Je suis rentré à la maison, dans notre abri souterrain. Entre-temps, maman avait eu une nouvelle attaque. On l'avait emmenée à l'hôpital. Il n'y avait rien à manger à la maison, mais je n'ai osé le dire à personne. Quand on m'a retrouvé par terre, c'était à peine si je respirais. Toute ma vie, j'ai été à deux doigts de mourir. Et j'ai survécu. La Croix-Rouge m'a acheté un billet et on m'a mis dans un train. On m'a renvoyé dans ma ville natale, à Smolensk, à l'orphelinat. Le jour de la mort de Staline, on avait mis tout l'orphelinat en rang et on avait descendu le drapeau rouge. Nous sommes restés au garde-à-vous tout le temps qu'ont duré les funérailles pendant 6-8 heures. Certains se sont évanouis. Je pleurais. Je savais comment vivre sans maman. Mais sans Staline. Au bout de 4 ans, alors que je faisais déjà des études d'architecture, maman est rentrée de relégation. Pour toujours. Elle est arrivée avec une petite valise en bois qui contenait une gamelle en zinc. Je l'ai toujours quelque part. Je n'arrive pas à l'acheter. 2 cuillères en aluminium et un monceau de bas troué. Maman est morte, très vite. Je ne l'ai caressée et embrassée qu'une fois morte. Quand je l'ai vue dans son cercueil, j'ai soudain senti se réveiller en moi une telle tendresse, un tel amour. Elle était couchée là, avec ses vieilles bottes de feutre. Elle n'avait ni chaussures ni pantoufles, et je n'avais pas pu lui mettre les miennes. Ses pieds étaient trop enflés. Il ne faut jamais retourner dans son passé. Mais moi, j'y allais sans arrêt. Pendant 50 ans, j'y suis retourné pendant 50 ans. Le jour en pensée et la nuit en rêve. Et finalement, j'ai décidé d'y aller. C'était déjà l'après Perestroïka, Gorbatchev, les meetings. On pouvait écrire ce qu'on voulait, crier ce qu'on voulait, où on voulait. Peu importait l'avenir qui nous attendait, le passé, lui, était terminé. On attendait quelque chose d'autre. Il y avait de l'impatience dans l'air. Et aussi de la peur. Pendant longtemps, j'avais peur d'allumer la radio le matin. Et si tout était terminé? Et un matin, j'étais en train de peindre à la porte-fenêtre et je me suis dit, Demain, je vais à Karaganda. J'ai dit ça à voix haute, je m'en souviens. C'est quoi, Karaganda? Une steppe, vide et nue, sur des centaines de kilomètres. Sous Staline, on avait construit des dizaines de camps dans cette steppe. Quand Staline est mort, on a détruit les baraques, on a enlevé les barbelés, et c'est devenu une ville. La ville de Karaganda. Voilà où j'allais. C'est un long voyage. Dans le train, j'ai fait la connaissance d'une institutrice qui venait d'Ukraine. Elle cherchait la tombe de son père. C'était la deuxième fois qu'elle se rendait à Karaganda. « Ne t'en fais pas, m'a-t-elle dit. Là-bas, ils ont l'habitude de voir débarquer du monde entier des gens bizarres qui parlent avec les pierres. » Dans l'autobus, un vieillard s'est assis à côté de moi. Il a compris que je n'étais pas du coin. « Vous cherchez qui ?»« Il y avait bien un camp, ici. »« Vous parlez des baraques. »« On a détruit les dernières il y a 2 ans. »« Avec les briques, les gens se sont construits des remises, des saunas. »« Les terrains ont été vendus pour y construire des dachas. »« On se sert des barbelés pour délimiter les potagers. »« Mon fils a un terrain ici. »« Au printemps, avec la fonte des neiges et les pluies, » les ossements remontent au milieu des pommes de terre. On a l'habitude. Ici, les eaux, c'est comme des cailloux. Il y en a partout. Dès qu'on commence à creuser, ça grouille littéralement. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours et 3 nuits. Je marchais. Je marchais dans la steppe toute la journée, jusqu'au soir, jusqu'aux premières lumières. J'ai cherché. Cherché. Jusqu'au dernier jour. Et le dernier jour, quelqu'un m'a dit « Allez donc voir la vieille Katerina Demchuk. Elle va sur ses 90 ans, mais elle se souvient de tout. » Et on m'a amené chez elle. J'ai frappé. Elle est sortie. Une très vieille femme, presque aveugle. On m'a dit que vous aviez travaillé à l'orphelinat. Oui, j'étais éducatrice. Nous n'avions pas d'éducatrice. Nous avions des commandantes. Elle n'a pas répondu. Elle s'est éloignée et s'est mise à arroser son potager. Je suis restée là. Je ne m'en allais pas. Alors elle m'a fait entrer chez elle, à contre-cœur. Il y avait un crucifix dans l'entrée et une icône dans un coin. Je me suis souvenue de sa voix. Pas de son visage, de sa voix. Ta maman est une ennemie. On a le droit de vous taper dessus même, de vous tuer. Je l'avais reconnue. Ou bien, je voulais la reconnaître. Vous vous souvenez peut-être de moi? Non, non, je ne me souviens de personne. Vous étiez petit. Vous ne grandissiez pas, et nous, on avait des instructions. Elle a fait du thé, elle a servi des craquelins. Je l'ai écoutée se plaindre. Son fils était alcoolique, ses petits-fils aussi buvaient. Son mari était mort depuis longtemps, elle avait une toute petite retraite. Elle avait mal au dos. Ce n'était pas drôle de vieillir. Et je me disais, voilà, nous nous retrouvons au bout de 50 ans. Je m'imaginais que c'était elle. Je m'étais représenté la scène. Nous étions l'une en face de l'autre. Et alors? Moi aussi, j'avais perdu mon mari. Moi aussi, j'avais une toute petite retraite. Moi aussi, j'avais mal au dos. Nous étions vieilles. Et voilà tout.
C'était « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait, Jean-Pierre Thiboda. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. troisième émission avec Martine Chambacher et les voix de Olga Kokorina, Nikolai Yaroshenko, Vladimir Hant et Julien Gaillard. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière et Catel Guillou. Équipe de réalisation, Julien Douminc, Émilie Couette, Clémence Grosse, Laure Egorov.